One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Qu'est-ce qu'elle va penser de nous quand elle saura que c'est pas vrai?
C'est sûr que Père Noël, c'est quand même une histoire vraiment inventée et dont, finalement, quel est le but, quoi?
C'est vrai que ça procure tellement de bonheur aux enfants. Je veux dire, c'est quand même un truc qui les rend heureux pendant 3 mois.
Hein. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé?
T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Merci.
Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Joseph ?
Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est peut-être un sujet pas très banal, mais c'est le sujet du Père Noël. À savoir ce que vous pensez qu'il faut dire aux enfants au sujet du Père Noël quand ils commencent à s'interroger un peu par eux-mêmes. Parce que ça pose pas mal de questions sur... le mensonge, notamment,
oui.
Et sur les histoires qu'on leur raconte. Et j'aurais souhaité avoir votre éclairage à ce sujet.
Qu'est-ce qui se passe pour vous autour de cette question?
Alors, autour de cette question, là, ça a commencé il y a quelques mois. C'est à la fin de l'été. Je pense que quand ma fille a réalisé que l'année commençait vraiment, je pense que dans sa tête... la fin de l'été, pour elle, on va vers l'hiver. Donc, elle commençait tout de suite à penser à la saison de Noël. Et un soir, elle m'a demandé, papa, est-ce que le Père Noël, il existe vraiment? Voilà.
Elle a quel âge, votre fille?
Donc, 4 ans et demi.
D'accord.
Voilà, enfin, elle va avoir 5 ans, juste avant Noël. Donc, quand elle m'a posé la question, précisément, elle avait 4 ans et demi. Oui.
Voilà. Que lui avez-vous répondu?
Alors, j'ai fait la bonne vieille tactique... qui n'est pas forcément très maligne, j'en sais rien, mais je lui ai répondu par une question. C'est-à-dire que une question par une autre question, c'est la tactique de base quand on n'a pas envie de répondre. Et donc j'ai fait ça à ma fille, j'en ai un peu honte, je lui ai demandé « Et toi, est-ce que tu penses qu'il existe ?» Voilà. Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas. Voilà. Et donc je ne sais pas trop quoi lui dire, du coup.
Et vous, quand elle vous a posé cette question, qu'est-ce que ça a suscité chez vous?
Alors, ça suscite plusieurs choses, parce que déjà, on se dit que c'est une évolution, c'est une étape dans l'évolution d'un enfant. Ne plus croire au Père Noël, c'est un peu ça m'a rappelé l'école. À l'école, quand j'étais petit, celui qui était immature, celui qui était bébé, c'était celui qui croyait encore au Père Noël. Et puis c'est un truc qui reste même dans l'âge adulte, hein, quand on croit à quelque chose de délirant, il croit au Père Noël, celui-là. Enfin bon, donc, oui, moi je vois ça comme première réaction, c'est « Ah, elle est en train d'atteindre cette étape ». Et puis la deuxième réaction, c'est « Qu'est-ce qu'elle va penser de nous quand elle saura que c'est pas vrai ?» Alors, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va se dire, bon ben voilà, en fait, tout le monde m'a menti pendant tant de temps. Donc, c'est toujours le truc, dans ce genre de cas, on se pose la question de...
de la confiance, quoi. Quand on se rend compte que quelqu'un nous ment pendant un certain temps, la confiance qu'on a en cette personne en prend un coup. Mm-hmm. La deuxième étape, c'est de savoir maintenant, est-ce qu'elle va, parce que les enfants de cet âge-là, tout ce qu'on leur dit, ils le croient, mm-hmm. en fait. Hein, tout ce que leurs parents. Je ne sais pas, les autres, peut-être qu'ils ne croient pas à leurs petits camarades, qu'ils ont appris à déceler le mensonge chez leurs petits camarades, et tout. Mais ils ont tendance à prendre ce que leur disent les adultes référents comme argent comptant, un peu. Mm-hmm. Donc c'est un peu la première fois, peut-être, dans leur vie, que ce qu'un adulte leur a dit se révèle faux, et entièrement faux, en plus. Enfin, un truc fabriqué de toutes pièces, quoi. Donc ma deuxième réaction, c'est de me demander comment elle va réagir à ça, un mensonge aussi éhonté et aussi savamment orchestré.
Les années précédentes, comment ça s'est passé? Est-ce que vous jouiez au jeu, oui, du Père Noël, si on peut le dire?
On jouait au jeu du Père Noël parce que on est avec ses cousins, cousines, il y en avait qui croyaient encore quand elle est née. Donc les premiers Noëls qu'elle a fait, elle était entourée d'enfants à qui on avait raconté cette histoire. Mmh. Donc elle a été intégrée dedans. Mmh. De toute façon, moi, même s'il n'y avait pas eu ça, même si on avait fait le Noël juste tous les trois avec sa maman, on lui aurait raconté l'histoire du Père Noël, effectivement. Les premiers Noëls qu'on a fait, je pense qu'il y avait 3-4 enfants qui y croyaient et à qui on faisait la mise en scène, quoi.
C'est-à-dire la mise en scène.
La mise en scène, c'est le truc de faire le dîner, tout ça, et puis ensuite de capter l'attention des enfants. Là, en l'occurrence, c'était chez mon beau-frère, qui a une maison. Et donc, c'est de les faire monter à l'étage pendant un moment, pendant que quelqu'un place les cadeaux sous le sapin. Et puis ensuite, on redescend, on fait « Oh, le Père Noël est passé !» Voilà. Mmh. Donc, cette mise en scène-là, et qui a très bien marché avec tous les enfants. Et voilà.
Mmh. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui se déguisait en Père Noël ?
Non, du tout. Il est passé.
D'accord. Oui, il y a des familles. Hein,
oui, tout à fait. Oui. Non, on n'est pas allé jusque-là.
Mmh. Est-ce que, du coup, depuis la fin de l'été, votre fille, elle a posé d'autres questions, sachant que là, on s'approche de la période de Noël?
Elle a changé de tactique. Elle m'a demandé qui lui avait offert quoi. Mmh. Elle montrait des objets dans sa chambre. Elle disait, papa, qui m'a acheté ça? Qui m'a offert ça? Qui m'a offert ça? Un objet, c'était sa tante qui l'avait offert. Je vais faire, c'est Anne-Laure qui t'a offert ça. Elle m'a dit, non, c'est Papa Noël. Mmh. Donc, elle mène son enquête. Donc là, elle menait son enquête de cette façon-là, en me demandant qui lui avait offert quoi, pour voir si j'allais dire Papa Noël sur les bons jouets. Mmh. Et elle m'a eu, en l'occurrence.
Quelle a été sa réaction? Elle vous a reprise, mais est-ce que vous avez observé autre chose dans sa réaction?
Elle m'a dit, non, c'est Papa Noël. Voilà. C'est pas Anne-Laure, c'est Papa Noël qui me l'a offert. Et puis c'est tout. J'ai pas vu d'autres réactions.
Comment vous imaginez qu'elle pourrait réagir quand elle va découvrir la vérité, alors qu'elle apparemment qu'elle pressent?
Justement, je lui en ai parlé là il y a quelques jours. C'est moi qui ai lancé le sujet.
Que lui avez-vous dit?
Et je lui ai dit, tu sais ce que tu vas demander au Papa Noël? Alors, ça approche, parce qu'il y a son anniversaire qui est juste avant. Mmh. Donc, je lui ai dit, à ton anniversaire, Noël qui approche. Alors, pour ton anniversaire, elle m'a déjà fait un cahier de doléances très fourni. et je lui ai demandé, et pour Noël, tu vas demander au Père Noël? Elle m'a dit oui, mais elle ne m'a pas dit quoi. Et je lui ai dit, tu penses que le Père Noël y va passer? Elle m'a fait oui. Et j'ai l'impression qu'elle a décidé d'y croire. Mmh. Que c'est comme si elle avait fait le choix, il y a un doute. Mais elle semble avoir décidé que, malgré les doutes, c'est un truc qui a l'air plutôt sympa, quand même. Et donc, j'ai l'impression qu'elle a décidé d'y croire, pour l'instant. Mmh. Voilà.
Et vous vous sentez comment par rapport à ça?
Plutôt à l'aise. Si elle décide d'elle-même d'y croire, en commençant à avoir des doutes, c'est un cheminement personnel et peut-être...
Donc là, ça ne vous appartient plus, d'une certaine manière. Voilà. Ça ne vous met plus dans cette position de mensonge dans laquelle vous aviez l'impression d'être.
Exactement. Je n'ai plus à surjouer ou à dire « Comment ça, tu ne crois pas ?» Mais il va bien sûr que si, il existe ou il va passer. Ça ne me met pas dans cette position-là. Et puis je me dis « Oui, c'est son choix. » Pour le coup, elle choisit d'y croire. Et effectivement, moi, ça me met un peu hors jeu, donc tant mieux.
C'est plus confortable.
C'est plus confortable, oui.
Vous, Joseph, est-ce que vous avez cru au Père Noël quand vous étiez enfant?
Oui, j'ai cru au Père Noël. Moi, on était nombreux. Les soirs de Noël, c'était les soirs où toute ma famille vivait en région parisienne. Donc, Noël, on était tous là, quoi. Donc, on était nombreux. Mm-hmm. On était une bonne trentaine.
On était 7 enfants en âge, à peu près du même âge. De ma génération, il y en a qui sont beaucoup plus âgés, donc bon, forcément, ils étaient hors jeu. Mais oui, il y avait toute une mise en scène. Alors, je me souviens plus qui m'a dit que le Père Noël ou quoi au caisse, mais en tout cas, oui, il y avait toute une mise en scène forte et tout un. C'était un soir important et oui, je me rappelle très bien y avoir cru. Ouais. Tout à fait.
Et vous vous souvenez du moment où vous y avez plus cru ?
Oui, tout à fait. Je me souviens, je l'ai découvert par moi-même le soir même. C'était un peu le classique. Nos parents nous faisaient faire un spectacle. Et pendant le spectacle, évidemment, on était tout à notre public, hein, vouloir satisfaire notre public. Donc on ne faisait pas très attention. Et pendant le spectacle, un des parents, évidemment, plaçait tous les cadeaux sous le sapin. Et puis quand on revenait, ah, magie, le Père Noël était passé. Et je ne me souviens plus à quel âge, je crois que je devais avoir 6 ans. J'ai fait exprès, pendant le spectacle, d'aller voir ce qui se tramait dans le salon.
Donc vous aviez des doutes.
Et là, j'ai vu. Oui, j'avais des doutes et j'ai vu de mes yeux vus ce qui se passait. Je me suis empressé de le dire à tous mes cousins. Voilà. À
dire, bon, quelles ont été les réactions des cousins ?
Alors, je ne me souviens plus vraiment de leurs réactions. Je me souviens, moi, que j'étais surtout très amusé. Moi, j'ai pas été déçu. Moi, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait plaisir de le découvrir par moi-même et de prendre les adultes sur le fait. Ou de prendre les adultes à défaut, m'a beaucoup plu.
Souvent, j'entends les parents dire que le fait que l'enfant le découvre, il peut avoir l'impression qu'on le considère comme un petit. Vous, pas du tout. Finalement, le fait de prendre les adultes dans leur propre jeu,
exactement,
ça vous a fait sortir la tête haute, finalement, de cette histoire. Comment, du coup, vous comprenez que le fait que votre fille le découvre, ça puisse être inquiétant pour vous ?
Parce que cette façon de prêcher le mensonge, sans qu'il y ait vraiment de but autre qu'une forme de plaisir matériel ou un peu consumériste, un truc un peu moins un peu moins noble entre guillemets, le plaisir d'avoir des choses.
Bah. Oui, qui n'aurait pas une fonction claire.
Non, qui n'a pas une fonction claire éducative, si ce n'est une forme d'amour de l'accumulation matérielle. Noël, c'est quand même beaucoup basé autour de consommation, d'objets qui, dans un an ou deux, finiront à la poubelle, iront remplir une déchetterie. Donc c'est tout un truc qui n'est pas...
Au-delà de la question de la consommation, est-ce que Noël, il y a en effet les cadeaux, mais il peut y avoir aussi plein d'autres traditions autour de Noël. Est-ce que là, il y a peut-être d'autres choses qui sont importantes pour vous ?
Pour moi, Noël, en tant qu'adulte, c'est un peu triste, ça me rend un peu triste.
Et est-ce que le fait de le faire avec votre fille, est-ce que ça ravive la joie, le plaisir que vous évoquiez dans vos souvenirs d'enfance ?
Tout à fait. Ah oui, ça l'a tout à fait ravivé. Indéniablement, complètement. C'est vrai que ça procure tellement de bonheur aux enfants. Je veux dire, c'est quand même un truc qui les rend heureux pendant 3 mois. C'est-à-dire que c'est ça qui est fort avec Noël, c'est qu'ils ne sont pas heureux le jour J. Ils sont heureux quand ils choisissent les cadeaux, ils sont heureux quand ils écrivent la lettre, ils sont heureux... Enfin, je veux dire, c'est un truc qui les stimule pendant un temps assez important, quoi. Donc oui, apporter autant de bonheur à si peu de frais, oui, effectivement, ça fait plaisir, ouais.
Donc est-ce que ça peut être une fonction éducative, finalement ?
Oui, c'est vrai, effectivement. Oui, donner du bonheur comme ça à son enfant, oui, avoir envie de lui faire plaisir, effectivement. Effectivement, c'est ce qu'on veut en tant que parent, hein, Si nos enfants pouvaient vivre dans une félicité constante et éternelle, je crois qu'on signerait tout de suite.
Merci Joseph. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, qu'on aille rejoindre Anne Juteau, notre experte.
Avec plaisir.
Bonjour Anne Juteau.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute d'enfants et d'adolescents. Vous pratiquez également la relaxation thérapeutique à Paris, dans le 9e arrondissement. À l'approche de Noël, j'entends de plus en plus de parents s'interroger sur leur positionnement à l'égard de l'histoire du Père Noël. Comme vient de nous le dire Joseph, est-ce qu'il faut mentir aux enfants ou au contraire leur dire la vérité ? Et puis, comme nous l'a dit également Joseph, beaucoup expriment cette inquiétude par rapport à la découverte, à la réaction de l'enfant par rapport à sa découverte, que ça serait un mensonge. Alors, vous, Anne, est-ce que c'est des questions aussi que vous observez chez les parents que vous accompagnez ?
Alors effectivement, à cette période-là de l'année, bon, les parents viennent pas vous voir parce qu'ils ont cette question-là en tête, mais à cette période-là de l'année, quand on reçoit des parents, en fonction de l'âge de l'enfant, effectivement, c'est un questionnement qui peut arriver et qui paraît un questionnement assez récent, en fait, où les parents, je pense qu'ils ont, vraiment à cœur, et à juste titre, d'être des bons parents. Donc, ils se questionnent sur, finalement, les valeurs qu'ils ont envie de transmettre. Et c'est sûr que le Père Noël, c'est quand même une histoire vraiment inventée et dont, finalement, quel est le but, quoi. Oui, ils ont une petite hésitation parce que, est-ce que, finalement, ils vont être des bons parents pour leurs enfants si, finalement, ils les embarquent délibérément sur un mensonge éhonté, quoi. Enfin, c'est... D'un autre côté, c'est quelque chose autour de... vous disiez tout à l'heure que finalement, c'est une histoire comme une autre. Et finalement, un parent, il ne se pose pas la question d'être un menteur quand il lit des histoires de sorcières, de fées, alors que...
D'ogres
ou de monstres, voilà. Et là, il n'a pas de problème là-dessus, alors que quand il la lit le soir, il peut être très actif, très dynamique, et l'enfant, il y croit, quoi. Donc là, sur ces sujets-là, le parent ne se pose pas de problème. Alors, il est vrai quand même que le Père Noël, c'est quand même... un petit peu autre chose. C'est un héros comme un hôte d'un conte, si on veut. Mais au final, c'est quand même un héros omniprésent au mois de décembre. Vous disiez même que ça les occupe avant, bien avant. Les vitrines des grands magasins sont faites depuis après la Toussaint. Enfin, donc c'est vrai que c'est omniprésent. Et en plus de ça, le Père Noël, on peut lui écrire. On peut le voir même, parce que dans les grands magasins ou autres, on peut même lui parler. Donc ça a tendance quand même à renforcer quelque chose de la réalité. Donc effectivement, le Père Noël a quand même une place un petit peu à part, qui fait qu'on se questionne davantage si c'est un mensonge ou pas, en fait.
Joseph nous disait, donc sa fille, à l'âge de 4 ans et demi, a commencé à poser des questions. À quel âge les enfants croient au Père Noël et puis à quel âge ils y croient plus ?
Alors, chaque enfant a un peu son rythme, et puis aussi sa propre croyance par rapport au Père Noël qui varie en fonction de son environnement. Maintenant, d'une façon générale, l'enfant, il croit au Père Noël de 2 à 5, 6 ans. Enfin, 6 ans, vous disiez, vous croyez vous rappeler que vous aviez autour de 6 ans, souvent autour de la dernière année de maternelle ou du CP qu'on commence à s'interroger. Mais en tous les cas, à 2 ans, je crois qu'on se pose pas de problème. Vous le disiez aussi, avant, votre petite fille a été embarquée dans l'histoire familiale avec les plus grands, et puis elle y était très bien. Après, il y a le 3-4 ans où on est plutôt assez à fond là-dedans, dans cette histoire du Père Noël. Bon, c'est une période particulière.
Est-ce que du coup, ça correspond à un stade du développement de l'enfant ?
Alors, c'est stade qu'on pourrait appeler le stade de un petit peu de la pensée magique. C'est l'enfant qui est entre 2, 5 ans, 6 ans, dans quelque chose où c'est un monde de magie, un monde de toute puissance, où tout serait possible, tout peut exister. Et finalement, c'est la période où ils ont un imaginaire fabuleux, où dans les cours de récréation, ils jouent aux tigres, aux monstres, aux fées,
Oui, donc là, le Père Noël existe au même titre que les ogres, les monstres, les fées, les sorcières, etc.
Tout peut exister et on se pose pas de questions. C'est normal, c'est évident. L'enfant, il va même pas se questionner, de se dire, dans toutes les histoires qu'il lit, pas toutes, mais beaucoup, Père Noël arrive dans la cheminée. Si à la maison, il n'y a pas de cheminée, ça va pas le questionner. C'est le Père Noël.
Il trouvera un autre moyen.
Je crois qu'il pense même pas aux moyens. Il attend le Père Noël. Voilà. Jusqu'à 3, 5 ans, c'est vrai que votre petite fille est pas en retard. Parce que souvent, ça arrive quand même plutôt dernière année de maternelle.
Elle est en dernière année de maternelle.
Ah, d'accord.
Vu qu'elle est de fin d'année.
D'accord. Voilà.
Elle est avec des plus grands.
Est avec des plus grands qui se questionnent peut-être déjà.
C'est ça. Et effectivement, vu qu'elle est de décembre, elle est rentrée en dernière année de maternelle en septembre.
D'accord. Ouais. Du coup, elle est tout à fait... Mais finalement, elle est dans les très jeunes de sa classe.
C'est ça, exactement.
Et du coup, c'est vrai que c'est là que les premiers... questionnement arrive, en fait. Parce que, eh ben oui, vers 5-6 ans, on commence à se faire petit à petit, de plus en plus son raisonnement, c'est de plus en plus logique. On va essayer quand même, effectivement, là, commencer à se dire, mais comment il fait ? Alors qu'avant, qu'un seul Père Noël puisse, sur un seul traîneau, emmener tous les cadeaux du monde, c'était pas un problème. Et même un enfant arriverait presque à justifier comment il fait. Il a tous les lutins du monde, ça, c'est pas un problème. Alors que là, dernière année de maternelle, la pensée est quand même de plus en plus élaborée, elle est de plus en plus construite. Et là, quand même, oh bah tiens.
Oui, on parle d'ailleurs de l'âge de raison autour de 6-7 ans, donc voilà, qui correspond vraiment à un moment où la pensée logique vraiment s'installe et se développe. Donc voilà, c'est le signe de cette transition. En tout cas, vous disiez aussi, Joseph, que le fait qu'elle vous pose cette question, ça a été dans ce que ça a suscité pour vous, le fait de la voir grandir. Et que, voilà, le fait qu'elle développe aussi cette pensée-là, en effet, c'est le signe qu'elle grandit.
Qu'elle franchit une étape, oui. Oui, c'est ma première réaction, comme je vous l'ai dit, c'est « Ah !» Cette étape est en train d'être franchie. Voilà. Maintenant, comment réagir pour passer pour un bon père.
en tout cas, vous dites bien, Joseph, comment voilà, cette étape, ce qu'elle peut susciter pour le parent, à la fois peut-être un peu de nostalgie ou de déception, ou à la fois peut-être être très joyeuse ou confortable pour le parent. Voilà, évidemment, cette réaction et le vécu du parent va dépendre aussi de sa propre histoire et de sa propre histoire par rapport à son rapport au Père Noël et ce que lui-même a vécu quand il était enfant. En tout cas, dans les parents avec lesquels j'ai pu aborder ces questions-là, je vois qu'il y a un peu deux types de parents. Les parents qui souhaitent absolument que leur enfant y croit, et puis les parents, au contraire, qui ne veulent pas du tout et qui, d'ailleurs, dès très jeunes, vont tout faire pour que l'enfant n'y croit pas.
Alors effectivement, il y a des parents pour lesquels c'est vraiment important. Je crois que cette histoire de Noël, ça ravive dans le parent l'enfant qu'il a été, parce que Noël, c'est avant tout la fête des enfants. Et donc, je crois que ça sollicite véritablement très fort l'enfant dans le parent. Et donc, si effectivement, pour lui, ça a été des très belles fêtes, ça a été des moments très agréables, il a envie de transmettre quelque chose de cela. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il n'aura pas l'impression d'être un menteur, puisqu'il sera très vrai, en fait. Il sera dans quelque chose d'un plaisir qui sera vivant lui et qu'il a envie de transmettre.
Oui, d'ailleurs, Joseph, c'est ce que vous nous disiez, finalement, même si maintenant, adulte, vous aimez plus Noël, alors peut-être la nostalgie de ce monde de l'enfance qui est parti.
Oui, il est là, oui, effectivement, c'est très beau souvenir.
Amène de la tristesse, mais le fait de le vivre avec votre fille, ça vous reconnecte à votre enfant, en tout cas, de retrouver quelque chose de l'ordre du plaisir, de la joie de ces moments-là, alors qu'adulte, il peut y avoir un peu de tristesse d'avoir perdu ça.
Voilà, exactement, tout à fait, oui. Tout à fait.
Donc retrouver un peu la magie de Noël finalement avec votre petite fille.
C'est ça, retrouver quelque chose qui a disparu à un moment, mais qui a disparu beaucoup plus tard, qui n'est pas lié au Père Noël, mais...
À la vie.
À la vie, exactement, tout à fait.
Donc là, vous nous disiez, Anne, voilà, ceux qui ont envie que leur enfant y croit et pour lesquels finalement ils sont assez confortables avec ce mensonge que j'ai du coup presque envie de mettre entre guillemets, c'est pas tout à fait un mensonge finalement.
C'est une tradition dans ce cas-là et je crois qu'effectivement ces parents-là se sentent pas du tout menteurs parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont réellement, pour eux c'est du plaisir et du coup, pour le coup priver leurs enfants de ça, ça serait compliqué. Alors effectivement on peut même penser à votre petite fille qui finalement elle est presque un an en avance avec certains de sa classe et que finalement peut-être c'est ça aussi qui vous fait hésiter à lui dire, c'est qu'elle, finalement, par rapport à d'autres de sa classe, on pourrait se dire, elle pourrait peut-être y croire encore pendant un an.
Elle pourrait encore avoir un an de plaisir, mais voilà. Vous venez de dire, vous venez de me donner une clé, je lui dirais, c'était pas un mensonge, c'était une tradition.
Une belle histoire. Une belle histoire qu'on se raconte de génération en génération, et je crois que voilà, faut avoir en tête l'histoire.
Oui.
Et comme ça, c'est, voilà. On est vrai et on ne ment pas.
C'est une belle façon de voir les choses, carrément.
En tout cas, là, je pense aussi à des parents alors pour lesquels Noël est extrêmement important, extrêmement investi et qui presque auraient envie d'imposer cette croyance à leur enfant. Alors là, j'imagine que c'est problématique parce que là, le parent impose quelque chose.
Oui, et puis bon, c'est quand même la fête des enfants. Certes, le parent il revit quelque chose de son enfance, mais à la fois, c'est quand même pas pour lui, cette fête-là. C'est quand même pour son enfant. Donc, effectivement, c'est quelque chose... on peut pas lui imposer de croire jusqu'à 10 ans non plus. Et puis, il faut être dans la réalité par rapport aux amis. Et voilà, il faut être à l'écoute de son enfant et à l'écoute de soi-même aussi, je crois. Faut être vrai.
Oui, et puis qu'il peut y avoir... c'est peut-être un peu là ce qui est en train de se passer pour vous, Joseph et votre fille. Un moment un peu d'entre-deux où chacun va jouer... à y croire, l'enfant peut y croire pour faire un peu plaisir aux parents, s'il sent que c'est important pour le parent, et puis le parent qui va continuer de jouer aussi pour le plaisir de l'enfant, et voilà, ça peut être un jeu partagé.
Peut-être que votre petite fille est tout à fait là-dedans aussi, parce que finalement, quand elle vous a posé la question, on peut très bien se dire qu'effectivement, elle commence à avoir des doutes. Elle a peut-être entendu des petits copains, copines
à l'école,
à l'école qui en parlent. Et du coup, elle vous interroge avec peut-être une part d'elle qui dit « j'espère que non quand même », mais qui « papa, quoi ». Elle est très en demande et... Avec, effectivement, l'idée, j'ai peut-être encore envie d'y croire. Vous vous dites peut-être aussi, quand même, si elle pouvait y croire encore un petit peu. Mais à la fois, elle est peut-être pas tout à fait encore dupe complètement. Mais bon.
Oui.
En tout cas, ça dit peut-être aussi quelque chose de l'ambivalence des enfants. À la fois, ils ont envie de grandir et à la fois, ils ont envie de rester des bébés, parfois.
Tout à fait.
Voilà, et qui sont un peu tiraillés entre les deux.
Tout à fait.
Et même l'ambivalence des parents, quand leurs enfants grandissent et qu'ils restent bébés parfois.
Exactement. Alors, pour parler un peu plus des parents qui, eux, ne souhaitent pas du tout que leur enfant y croie. En tout cas, vous, Joseph, finalement, la question est venue avec votre fille, mais avant, assez naturellement, vous l'avez inclus dans cette tradition familiale.
Tout à fait.
Mais voilà, il y a d'autres parents pour qui c'est clair qu'ils ne veulent pas que leur enfant croie au Père Noël.
Tout à fait. Écoutez, je crois que ça dépend vraiment de ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des familles où Noël n'a pas du tout été investi. Enfin, c'était déjà... Enfin, les parents, c'est quelque chose auquel ils n'adhéraient pas. Il y a aussi des familles où c'est une période trop douloureuse, Noël. Alors, tout à l'heure, vous disiez un petit peu que il y a des choses un peu tristes, mais qui ne sont pas attachées à Noël. Donc, quand il y a des choses tristes attachées à Noël, une catastrophe qui est arrivée le jour de Noël ou les jours autour, le décès de quelqu'un, des choses compliquées, le parent, il peut ne pas avoir envie quelque part effacer cette période. Donc, ça peut être une des raisons pour des parents qui adhèrent pas. Il y a aussi des parents, finalement, et c'est peut-être ça qui, vous en avez parlé un petit peu, mais qui se voit un petit peu le plus en ce moment avec les parents qui se questionnent, c'est autour de Noël où la fête commerciale prend une proportion énorme et on est quand même en plus dans une période où on veut être de plus en plus éco-responsable et que du coup il y a un certain nombre de jeunes parents qui c'est cette idée-là et ces valeurs-là en fait qui valident pas. Et ça, on peut pas le reprocher. C'est tout à fait légitime de pas vouloir rentrer là-dedans.
Oui, en tout cas, là, peut-être qu'il y a quelque chose de pouvoir être dans la magie de Noël, l'histoire du Père Noël, et sans, par ailleurs, être dans la surconsommation. C'est vrai que même le personnage même du Père Noël, c'est Coca-Cola qui l'a créé. Donc, voilà, il a toujours eu une image très commerciale.
Puis il y a la gastronomie qui va avec. C'est-à-dire que le foie gras... la dinde, toutes ces choses-là sont aussi de la viande, des choses qui produisent énormément à produire. Et aussi le foie gras, par exemple, qui a été interdit dans toute une partie des États-Unis à cause de la façon dont on gave les oies, tout ça. Donc effectivement, il y a quand même, on sent une partie de la société qui adhère plus trop à toutes ces choses-là, effectivement. Et garder une magie tout en... c'est pas forcément évident.
Non, mais c'est là qu'il faut s'écouter par rapport à ses propres valeurs et essayer de se faire des choix, en fait, dans... Se faire une magie de Noël qui correspond à finalement qui on est et qu'est-ce qu'on veut transmettre comme valeur.
C'est compliqué. Moi, je contrôle rien là-dessus. C'est incroyable. C'est parce qu'elle a déjà plus de jouets que j'en ai jamais eu dans ma vie.
tout ça, et je suis là, mince, mon Dieu. Que des trucs en plastique, en plus, enfin bon, bref. Mmh. Fait que c'est difficile à contrôler, tout ça. Mmh.
Mais je crois aussi, comme la question du Père Noël, parce que même les parents qui ne veulent pas que leur enfant y croit, c'est quand même difficile de priver complètement son enfant de ça. C'est présent dans la société, à l'école, les copains en parlent, c'est présent partout, voilà, d'autant plus dans cette période de Noël. Oui. Donc voilà, c'est compliqué aussi complètement de priver l'enfant de ça.
Oui, ça, d'ailleurs, c'est important de ne pas le priver. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver une solution. Il me semble que c'est un bon compromis, si on n'adhère pas à cette idée, de parler de l'histoire du Père Noël, prenant le Père Noël comme un personnage, un héros, comme une princesse, Zorro, voilà, enfin, c'est un héros d'une histoire qu'on raconte à cette période-là. Et puis, bon, il y a plein de jolies petites histoires à cette période où, effectivement, il commence, il fait froid, il fait nuit de bonheur. Enfin, on a besoin de oui. toutes ces festivités un petit peu qui, voilà. Mmh. Hein, donc, et parce que sinon, vous me disiez, les parents qui sont tout à fait contre, qui ont l'impression de mentir, je crois que ce qui est important, c'est il y a quelques cas difficiles, en fait, où il y a des histoires de mensonges familiaux, de secrets de famille, de choses comme ça. Et là, effectivement, les parents sont pas à l'aise sur le mensonge, si on peut dire, et que du coup, eux, ils stigmatisent cette histoire-là comme « là, je leur mens ». Et en plus, ils risquent de se faire coincer par leur enfant autour « mais t'es un menteur ». Et donc, quand il y a déjà des choses qu'on cache, pour différentes raisons, bon, on peut être très très mal à l'aise et surtout pas avoir envie d'être traité de menteur pour une histoire finalement toute simple, quoi. Enfin.
Ça m'évoque aussi la question, ce que vous disiez juste avant, des croyances, c'est-à-dire qu'autour de Noël, il y a le Père Noël, mais il peut y avoir d'autres croyances, alors des croyances religieuses, voilà, dans les familles chrétiennes, on va parler davantage de la naissance de Jésus, par exemple, qui va être plus valorisée, et puis la question de la tradition, voilà, en fonction des familles. Alors, vous nous disiez apparemment, Joseph, vous, la tradition, c'était le soir, ce petit rituel où les enfants étaient occupés, puis ensuite les cadeaux. Il y a d'autres familles où ça va être le matin du 25. On va attendre que le Père Noël passe la nuit, on va mettre les gâteaux à minuit pile. Donc finalement, dans cette tradition, chaque famille aussi a ses manières de faire traditionnelles, rituelles. C'est souvent assez ritualisé d'ailleurs, les fêtes de Noël et la manière dont ça se passe. Et que c'est ça aussi, le temps de partage, d'être ensemble, de retrouvailles familiales qui peut être aussi valorisé.
C'est le signe d'une famille qui va relativement bien aussi, Noël. C'est-à-dire, déjà, c'est une famille qui est capable de se réunir. Même si ce n'est pas forcément réussi, qui est au moins a le projet de passer du bon temps ensemble. Succès ou pas succès, au moins, ils se disent, s'ils le font, c'est qu'ils se disent que quelque part, c'est possible. Donc, c'est aussi lié à une forme de bonheur familial, qui n'est pas toujours évident,
Oui, en tout cas, ce que vous dites là, José, je crois que ce qui est très important, le fait d'avoir envie de se retrouver.
C'est ça.
Et qu'on peut se disputer, peu importe, mais au moins déjà d'avoir l'envie, l'intention d'être ensemble.
Tout à fait.
En effet, c'est un message très fort qui est envoyé à l'enfant.
C'est un message très... Exactement. Et ça je le ressens. C'est un truc que je ressens assez fortement. Et même si, pour les adultes, c'est pas forcément réussi, déjà rien que le fait de le faire... Ça prouve une volonté d'être ensemble qui est bonne pour les générations du dessous, je pense.
Oui, même si c'est un peu contraignant parfois pour les adultes.
Pour les adultes, exactement. Mais bon, je veux dire, si on s'arrêtait à la moindre contrainte avec les enfants, alors on serait foutus.
Oui, puis c'est effectivement vraiment le symbole de la fête familiale, quand même, la fête de Noël. Et où effectivement les familles, en général, font un effort pour se réunir. Des fois, elles viennent de loin, mais c'est le jour de l'année où on arrive à se réunir. Et où, comme vous dites, même si c'est des fois compliqué entre les adultes, on fait un effort pour les enfants, parce que c'est la fête des enfants, qu'on fête tous ensemble en famille. Mais alors effectivement, d'un point de vue parental, la fête de Noël, on se pose aussi des questions en tant que parents, c'est-à-dire dans quelle famille on va le faire.
Tout à fait.
On peut être tenté, si dans sa famille il y a des Noëls très féeriques, très investis, de se dire moi j'ai quand même envie, alors que de l'autre côté on va juste peut-être soirée tranquille qui ressemble à un dimanche, voilà. Et du coup, des fois ça peut même être un petit peu conflictuel. Et il y a, bon, il y a des familles qui résolvent le problème en disant, de toute façon, c'est une année sur deux, et comme ça, de toute façon, bah, on se pose plus le problème. Mais effectivement, on sent qu'il y a un questionnement qui arrive au sein du couple parental.
Ouais, complètement.
De comment on va fêter Noël et où?
Comment on va recréer, comment on va recréer les conditions pour faire vivre ce qu'on a aimé.
Voilà.
À notre enfant.
Et ce qu'on ne retrouve pas forcément dans l'autre famille, et qui peut être un peu bousculant, enfin,
mais ça peut être
frustrant.
Ou alors, justement, on le retrouve dans l'autre famille.
Oui.
Et c'est aussi quelque chose de spécial où on se dit, ah, ça y est, je suis de retour. Ça recommence.
Oui,
oui, là, vous dites bien comment chacun va se reconnecter à son enfant,
voilà,
à l'enfant qu'il a été, soit dans sa famille, soit dans l'autre famille, et comment finalement ce compromis aussi va se construire, ou aussi comment le couple va créer peut-être quelque chose de nouveau.
Exactement, de 100% neuf. Qui peut aussi
le couple ou les parents. Hein.
Oui, voilà, c'est ça, exactement, de 100% neuf. Mais moi, le critère, c'était qu'il y ait d'autres enfants. En fait, surtout, qu'il y ait d'autres enfants à peu près du même âge pour qu'ils puissent partager ça entre eux. Et moi, c'est ça le critère. C'est pas ma famille ou une autre ou je sais pas quoi. Non, c'est est-ce qu'il y aura des enfants qui croient au Père Noël et qui vont être heureux et qui seront ensemble. Voilà.
Question de la joie partagée.
Question de la joie partagée. Exactement, exactement. Et puis moi, si je m'ennuie, il y aura du champagne.
Alors dans l'histoire du compromis dont vous parliez, finalement, quand il y a des grandes maisons ou des, il y a un certain nombre de familles qui essaient finalement de réunir les deux familles ensemble. Comme ça, finalement, on essaie de réunir et d'agrandir encore la famille et chacun y trouve à peu près son compte. Comme ça, il y a un petit peu des éléments de chaque qu'on aime fêter dans chaque famille.
Oui, et puis il y a le soir de la fête de Noël ou le jour de Noël, mais il y a tout l'avant aussi. Oui. Voilà, ce que vous disiez, comment on va accompagner les enfants, est-ce qu'on va leur faire écrire la lettre au Père Noël ou pas, le calendrier de l'avant, préparer le sapin. Voilà, qu'il y a aussi plein de temps qui peuvent aussi être des temps qui vont permettre de partager cette féerie-là, cette magie-là, et qu'il y a bien deux choses à distinguer. C'est la fête de Noël avec ses préparatifs, et puis l'histoire du Père Noël. En tout cas, là, par rapport à la question de la révélation. Vous nous disiez, Anne, que finalement, quand l'enfant est confortable avec ça, il n'a pas l'impression de mentir à son enfant, et voilà, que c'est dans la tradition, la magie de Noël, quelque chose de partager, que ça le connecte à l'enfant qu'il a été dans quelque chose de joyeux et de confortable, l'enfant, vraisemblablement, va bien vivre cette révélation.
Certains peuvent se sentir un petit peu déçus, peut-être. Parce que quand même, c'est une chouette histoire. Mais en général, ils ne se sentent pas du tout ni trompés, ni trahis. Oui. Quand ça se passe effectivement dans quelque chose où le parent, lui, il l'a fait avec vraiment joie, et enfin dans le partage du plaisir, ce que vous disiez un peu tout à l'heure. Pas dans un truc où lui-même se sentait embarqué dans un truc qu'il n'aimait pas.
En tout cas, là, vous dites bien, Anne, que la déception, elle est à l'égard de la magie.
Mais pas tellement
à l'égard du parent.
Dans la plupart des cas, véritablement, ça se passe bien autour de la confiance avec son parent, la confiance, elle n'est pas du tout mise en jeu par cette histoire-là.
C'était justement votre question, Joseph, de cette inquiétude que la confiance soit trahie.
Tout à fait.
Et puis, alors vous racontiez que finalement, vous avez été le dire à tous les cousins. Mais finalement, des fois, il y a une fratrie, puis c'est le plus grand, c'est le premier qui passe par là, qui vient dire alors et tout. Et puis donc, quand on lui dit, finalement, ça peut être le moment où on lui dit, alors c'est vrai que toi, maintenant, t'es un grand, alors t'es dans le secret des grands avec nous. Et l'enfant peut se sentir tout à fait heureux et d'être investi comme un grand. Et pour le coup, le petit frère ou la petite sœur qui suit, qui a 2-3 ans, il va être très content, il va même des fois en rajouter, dire « Oh là là, mais attends, j'entends les clochettes, c'est sans doute le traîneau !» Enfin, lui, il va être content
de jouer.
Oui. Alors vous, finalement, vous aviez déjà 6 ans, et puis vous l'avez découvert par vous-même. Du coup, effectivement, là, c'était quelque chose, un partage. Je vais aller le dire à tous les cousins.
Je découvre quelque chose.
Vous étiez fier.
Oui, fier.
Oui, tout à fait.
Et puis c'est une découverte, il faut le dire aux autres.
Bien sûr.
Oh là là.
Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait.
Voilà.
Mais donc, je pense que Bon, voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment se dire sans culpabilité aucune. Quand tout se passe bien, globalement, dans la famille, quand il n'y a pas de soucis majeurs, il n'y a pas de raison que
du coup, quand c'est douloureux pour l'enfant, ça donnerait des indications qu'il y a des choses dans la famille qui fonctionnent difficilement ou...
Alors, voilà, un enfant, il peut être fragilisé par plein de choses. Par exemple... Je ne sais pas si effectivement c'est un moment déjà où les parents se séparent et que c'est très récent, des choses comme ça. Bon, bah oui, c'est des moments où l'enfant est fragilisé. Il se sent déjà tellement pas important, tellement pas. Puisque lui, ce n'est pas ça qu'il veut. Enfin bon, il y a des choses compliquées pour lui, tellement importantes pour sa vie, que là, une annonce comme ça à ce moment-là, ça peut être vécu comme une catastrophe parce que. Ben là, on s'est encore moqué de lui, parce qu'il est tout petit, parce qu'il compte pour rien, enfin bon. Donc effectivement, quand il y a des moments de fragilité comme ça, ça peut être un petit peu difficile. Et puis, ça peut être aussi des cas où, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, s'il y a des choses compliquées, où déjà l'enfant a l'impression qu'on ne lui dit pas la vérité, mais sur des choses graves, sur des choses qui le concernent. La vérité sur le Père Noël, ça va pas avoir d'incidence psychique sur un enfant qui va normalement bien. Je crois que voilà, il y a pas d'inquiétude là-dessus. Maintenant, effectivement, sur un enfant fragilisé, bah oui, il faut peut-être le prendre en compte, envelopper ça un petit peu de façon très bienveillante.
Oui, puis j'imagine qu'un enfant qui va être très en colère à l'égard de ses parents lorsqu'il va le découvrir, c'est peut-être parce qu'il est en colère à l'égard d'autres choses aussi.
Exactement. Il est en colère peut-être contre eux pour autre chose. Je sais pas, justement, séparation ou autre chose. Enfin, des choses qui peuvent le rendre triste et en colère. Et du coup, ça, c'est la goutte d'eau, quoi. Ça montre vraiment que...
Oui, que la parole de l'adulte n'est pas fiable.
Voilà, exactement.
Il y a autre chose, discuté avec des parents l'autre jour qui me disaient qu'ils achetaient les cadeaux en présence des enfants aussi, et qu'en même temps ils parlaient du Père Noël. Alors là, j'imagine aussi l'importance de la cohérence pour les parents entre eux, ce qu'ils disent et puis la manière dont ils organisent les choses.
On peut pas... Parce que ça, c'est complètement paradoxal.
Et ça, pour le coup, ça va mettre l'enfant dans une position peut-être difficile.
Il comprend pas, c'est-à-dire, il comprend pas la situation. Lui fait croire à quelque chose, mais à la fois on va dans les magasins et ce quelque chose, il va l'ouvrir, ça va correspondre au paquet qu'il a vu mettre dans le caddie. Donc oui, je crois qu'il faut être cohérent. Si on a envie qu'il croit au Père Noël, ben oui, on les emmène pas acheter leurs cadeaux. Maintenant, si on veut pas qu'il croit au Père Noël, ben oui, on peut les emmener chercher leurs cadeaux. Je crois que vraiment, mais en tous les cas, faut être cohérent.
Ouais,
parce qu'un enfant, il a besoin de se retrouver. Donc si on lui fait un message paradoxal, il est perdu.
Vous, Joseph, vous nous disiez que vous avez répondu à la question de votre fille par une autre question.
Oui.
Vous avez été très malin. Anne, voilà, comment les parents peuvent répondre aux questions des enfants?
Je crois que vous avez fait la bonne chose, la bonne méthode. C'est-à-dire, effectivement, quand un enfant pose cette question-là, c'est souvent qu'il a un petit doute. Et du coup, c'est important de lui demander... finalement, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu y crois encore?
Faut pas dire encore.
Oui, non, pas encore, évidemment. Est-ce que tu y crois? Bien sûr.
Parce que alors, si on rajoute encore, elle va répondre.
Oui, non, tout à fait. Non, mais voilà. Est-ce que tu as envie d'y croire? Enfin, vous pouvez essayer de... Mais
qu'est-ce que tu en
penses? Quelque chose, toutes ces questions avec lui... Ça le rend actif, en fait.
Ça en fait un interlocuteur,
exactement.
Un véritable interlocuteur,
exactement.
Plutôt qu'un quelqu'un à qui on dit
exactement, quelqu'un qu'on trompe. C'est quelqu'un, finalement, qu'est-ce que t'en penses vraiment? On peut en discuter.
Et puis,
pas pour autant qu'on va lui dire, forcément, mais...
Vous disiez d'ailleurs, Joseph, le fait qu'elle s'approprie, le fait qu'elle ait envie d'y croire, votre fille, vous êtes confortable avec ça, ça lui appartient.
C'est le truc, moi, c'est une de mes techniques pour certaines choses, c'est de la faire participer. Quand on fait participer un enfant, généralement, ça se passe mieux.
Mm-hmm.
Et c'est une des techniques que j'utilise pour beaucoup de choses, d'ailleurs. Pour manger, si elle n'a pas faim, je lui dis « Oui, mais quand même, il faut que tu mettes la table. » Et ça l'amuse de mettre la table. Ça ne va pas durer. Mais pour l'instant, ça l'amuse. Et c'est le genre de choses. Si elle participe, si elle fait partie du truc, ça la rend tout de suite beaucoup plus disposée à faire les choses. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire au fil de cette discussion, en fait, lui faire participer à ça. Elle n'est pas complètement passive, quoi.
On s'intéresse à sa pensée, à ce que ça lui fait.
Oui, oui.
Donc c'est vrai que ça les met vraiment dans une autre position.
Oui, tandis que le parent qui répondrait tout de suite, bah oui, ça n'existe pas, ça serait peut-être
ça,
un peu violent pour l'enfant.
C'est violent tout de suite. Et puis, bon, il y a des parents qui peuvent peut-être, ils font ce qu'ils peuvent, ça sort comme ça tout de suite parce qu'ils étaient peut-être embarrassés par cette histoire-là et ils veulent tout de suite s'en débarrasser. Mais c'est vrai que pour un enfant, c'est quand même... là, elle est encore petite, hein, mais finalement, dans 6 mois, dans 1 an, c'est-à-dire le prochain Noël, finalement, hein, il y a des chances que là... Et du coup, à ce moment-là, si elle vous le redit, elle vous testera un peu du genre, est-ce que papa, t'as encore envie que j'y croie ? Quand vous lui direz, qu'est-ce que t'en penses ? Puis elle vous dira peut-être, bah, tu sais, hein, je crois que c'est toi et maman. Et dans ce cas-là, bah, vous direz, bah, je crois que tu as raison, tu sais. Mais c'était une belle histoire et... on est bien content de l'avoir partagé avec
toi. Je me demande s'il faut peut-être lui dire, est-ce qu'il faut la féliciter, par exemple,
d'avoir trouvé.
D'avoir trouvé.
Pourquoi pas,
parce que je me posais cette question aussi. Je me disais, si elle me dit là, en fait, il n'existe pas, je me dis peut-être la façon de que ce soit pas trop dur ou trop décevant pour elle, c'est de lui dire, bah bravo, t'es maline. Il y a plus de Père Noël, mais toi, t'es une petite fille maline.
Mais je pense que si vous vous sentez pas menteur, elle ne sera pas déçue.
D'accord.
Je crois que c'est plus comment le parent il se sent.
Okay.
Parce que si vous êtes à l'aise sur le fait de pouvoir lui dire « Bon, bah oui, tu sais, je crois que tu as raison. » Mais d'une façon extrêmement bienveillante et extrêmement... en disant « Bah oui, c'était une drôlement belle histoire. Qu'est-ce qu'on était content de partager ça tous ensemble avec le petit. »
Est-ce que ça t'a plu d'y croire ?
Oui, bien sûr.
Demander ça,
bien sûr, oui. Est-ce que ça t'a plu, cette histoire de... Est-ce que tu l'aimes, le Père Noël ?
Et puis, c'est bien sûr, pas parce que le Père Noël n'existe pas qu'il n'y aura plus la magie de Noël, qu'il y aura toujours les décorations, les lumières...
Oui, oui. Mais c'est vrai qu'on aime Noël.
Ça peut la rassurer, effectivement, là-dessus. Parce qu'elle, elle peut aussi avoir peut-être le sentiment de tout perdre, si on n'y croit plus.
Oui, tout à fait.
Pouvoir dire, bah, t'inquiète pas, on continuera à faire les sapins, on continuera... à avoir un calendrier, ou je ne sais pas.
Oui, non, mais c'est vrai que Noël, moi j'ai aimé Noël jusqu'à ma préadolescence.
Il y a des adultes qui adorent encore Noël, même sans les enfants. D'ailleurs, la société actuelle vraiment sollicite très très fort l'enfant dans l'adulte avec de plus en plus de calendriers de l'Avent qui sont réellement que pour des adultes avec des bières, avec du parfum, avec du thé. On est très très loin de la fête des enfants, mais je crois qu'effectivement, il y a beaucoup d'adultes qui ont envie de ne pas lâcher quoi là-dessus.
Alors, Joseph, votre petite fille, elle est peut-être encore un peu petite, mais l'histoire du Père Noël, ça m'a évoqué une autre histoire qu'on raconte aux enfants, c'est celle de la petite souris, qui est issue d'un conte. Mais est-ce que cette histoire-là, qui est aussi une histoire, qui est aussi un mensonge, est-ce qu'elle ne serait pas un peu différente, finalement, de celle du Père Noël ?
Alors, effectivement, la petite souris, c'est aussi une histoire inventée et qui se transmet. Alors, elle est vraiment tirée d'un conte français... du XVIIe siècle, une fée qui se transforme en souris pour aider une reine qui a un roi très 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 méchant. Et du coup, cette petite souris se cache sous l'oreiller et fait tomber toutes les dents du roi. Et du coup, au départ, cette histoire de petite souris part de là. Bon, elle s'est transmise de façon très symbolique, en fait, cette histoire-là, pour aider quelque part l'enfant à dépasser l'angoisse, la peur que ça ferait de perdre une dent. C'est quand même pas rien. Hein. C'est... Nous, en tant qu'adultes, on se dit bon.
Ça fait mal, ça saigne.
Voilà. Et puis, c'est quand même presque, quand on se met à la place d'un petit, c'est presque une partie de soi qui tomberait. Donc, ça pourrait être potentiellement angoissant. Et finalement, cette histoire-là, tout à l'heure, on disait le Père Noël, bah oui, cette histoire, on l'a inventée, mais pourquoi ? Et finalement, cette histoire de la petite souris des dents ou la fée des dents, hein, en fonction des pays, parce qu'elle est là dans presque tous les pays, et ben en fait, finalement, elle serait quand même pour juguler quelque chose d'une angoisse et puis permettre d'élaborer un petit peu une perte. Enfin, et ça serait une perte qui nous permettrait d'aller vers être un plus grand. Hein, parce que bah, si on perd la petite dent fragile, c'est que plus tard, on aura une dent toute belle, toute brillante, toute solide, comme une pièce d'argent. Hein, d'où la symbolique. C'est pour ça qu'on met cette pièce sous l'oreiller, qui symbolise du dur et du brillant, que sera une nouvelle dent. Donc, il y a quelque chose autour de la perte qui est intéressant et qui aide un petit peu l'enfant, sans doute. Voilà, ça ne devient pas une catastrophe de perdre une dent. Au contraire, ils sont même ils sont très, très motivés pour titiller la dent, pour qu'elle tombe, pour qu'elle... Enfin, bon. Et puis, si en plus, on a un petit peu de sous dans cette histoire, ils deviennent de plus en plus motivés.
Oui, c'est d'ailleurs parfois la première fois où ils reçoivent de l'argent.
Tout à fait. C'est souvent un premier rapport à l'argent... petite porte d'entrée vers un argent de poche. Mais moi, il me semble que c'est intéressant que ça reste quelque chose de très symbolique, une petite pièce. Maintenant, des fois, ça devient aussi, là aussi, on devient dans quelque chose de plus commercial ou dans des familles, on donne un gros jouet. Enfin, bon, je trouve que, voilà, c'est intéressant que ça reste quelque chose de mignon et de symbolique. Voilà, c'est quand même pas de l'argent de poche réellement. c'est un petit rite de passage.
Et d'ailleurs, là, les enfants, bien souvent, ils croient bien au-delà de l'âge de raison. Ils croient ou en tout cas s'y accrochent à cette histoire. Oui. Donc voilà, certainement qu'ils sont pas dupes, mais ils ont envie de jouer et tout ça. Finalement, le Père Noël ou la petite souris sont quand même de belles histoires qui permettent de jouer, de partager et puis parfois de dépasser des angoisses, des choses difficiles.
Alors, ils sont plus grands, effectivement, puisque les dents, elles commencent à tomber, finalement, vers l'âge où on disait qu'on commence à comprendre que le Père Noël n'existe pas. En dernière année de maternelle, CP, CE1, c'est là que... En CE1, il y a des photos de classe où ils sont tous édentés. Donc, c'est là que ça se passe beaucoup. Et là, effectivement, c'est des enfants qui sont déjà un petit peu grands, qui raisonnent bien. Mais ils adorent cette histoire-là. Et ils attendent sérieusement que papa et maman n'oublient surtout pas de jouer à la grosse souris qui vient glisser une petite pièce le soir.
Merci beaucoup Anne. Comme vous nous l'avez si bien dit, on peut tout à fait laisser les enfants croire au Père Noël, à la petite souris, voilà, que ce sont des contes parmi tous les autres qui peuvent évidemment avoir une fonction pour aider l'enfant à vivre aussi des conflits qui peuvent être liés à son développement. Et puis quand les choses sont faites avec authenticité, bienveillance et respectueuse de l'enfant, et puis pour le parent de l'enfant que lui a été, généralement les choses se passent bien.
Oui.
Merci beaucoup Joseph également pour votre témoignage. Souvent je recommande des lectures à mes patients. Anne,
Moi je pense que les livres à cette période, enfin sur Noël, c'est vraiment important parce que justement lire des histoires du Père Noël, ça va vraiment montrer que c'est des histoires. Puis il y en a vraiment des très différentes où on peut effectivement trouver des Pères Noël écolos. Enfin, je ne sais pas, il y a moyen, en allant passer du temps dans des bonnes librairies, de trouver des choses qui nous plaisent. Et puis sinon, d'une façon générale, moi j'aime bien la collection Bayard, Les Belles Histoires. C'est plutôt assez joli et vraiment, il y a des choses très, très, très belles, enfin, originales et tout à fait mignonnes pour les 2-7 ans. Bon, moi, il y a un petit livre de Noël que j'aime bien qui s'appelle La lettre du Père Noël. C'est dans la collection Les Lutins. Et puis, c'est des animaux. Donc là aussi, on décale un petit peu. J'aime bien décaler les histoires. Mmh. Et alors, il y en a une qui... C'est une collection qui est sympathique aussi. C'est Maman Poule raconte. Et Maman Poule raconte, il y a une des histoires qui réunit le Père Noël et la petite souris. Et c'est la souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël. Voilà, c'est son vœu de Noël, je crois, de rencontrer le Père Noël à la petite souris. Donc, bon, voilà, ça peut être, ça peut être une idée.
Exactement. Voilà. Alors moi, pour les parents qui s'intéressent à la question des contes et à quel âge lire tel ou tel conte, il y a Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim qui peut aider à réfléchir sur cette question-là. Vraiment, merci à tous les deux. Merci Joseph et puis merci Anne Juteau d'avoir partagé avec nous votre expérience et tous vos conseils. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute d'enfants et d'adolescents à Paris dans le 9e arrondissement.
Merci.
Merci à tous les deux. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.